1. Luc chapitre 1, donc nous avons lu tout à l'heure à partir du verset 39. Dans cette époque, nous parlons beaucoup de l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ, et quand on lit surtout dans l'évangile de Luc, on voit qu'il y a plusieurs cantiques qui sont associés à l'incarnation du Fils de Dieu. On pourrait presque ouvrir un thème qu'on pourrait appeler les cantiques de l'incarnation. Donc il y a le cantique des anges qui viennent annoncer la nouvelle de la naissance au berger. On trouve aussi le cantique du sacrificateur Zacharie dans le premier chapitre de l'évangile de Luc. On trouve l'adoration, on pourrait presque dire le cantique de Siméon aussi. Mais ce soir, nous voulons regarder un tout petit peu, méditer un peu sur le cantique d'une jeune adolescente, le cantique de Marie. C'est ce qui a donné lieu, on pourrait dire, à ce cantique. Le contexte de ce cantique, c'est vraiment cette visite qu'elle a reçue de l'ange Gabriel, cette annonce qui a été faite. Puis je crois qu'aussi ce passage chez sa cousine Élisabeth lui a permis, lui a ouvert les yeux encore sur un certain nombre de choses. Et à partir du verset 46, on voit Marie qui exprime un merveilleux cantique qu'on appelle le Magnificat. Pourquoi Magnificat? Parce que les premières parole de ce cantique, regardez au verset 46, il dit « Mon âme exalte », ou d'autres traductions disent « Mon âme magnifie le Seigneur ». Donc ça s'appelle le Magnificat. Et puis si vous prenez le cantique de Zacharie, ça s'appelle le Benedictus, un peu, on appelle cela comme ça, parce que ça commence avec « Béni soit ». Donc Marie, le Magnificat, bon, c'est pas grave si vous ne retenez pas ces noms. Il n'est pas dit dans ce cantique que Marie était remplie du Saint-Esprit, comme il est dit pour Zacharie, mais les paroles qui sont prononcées, qui sont dites ici, ne laissent planer aucun doute. Le contexte même dans lequel tout cela est dit ne laisse planer aucun doute sur la plénitude et sur même la direction du Saint-Esprit dans l'expression de ce cantique. Pour nous qui célébrons donc la venue du Seigneur Jésus-Christ et qui voulons exprimer notre reconnaissance, on veut le faire de différentes manières, notre reconnaissance pour l'incarnation du Fils de Dieu, il est utile peut-être de considérer un petit peu le répertoire, de l'époque, de ses premiers compositeurs, de ses premiers chanteurs, comment ils ont célébré la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est pour ça que je vous propose de lire ensemble, on va relire ensemble Luc chapitre 1 verset 46, Luc 1, 46. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront, bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Voilà, je trouve que c'est un merveilleux cantique, une belle expression en tout cas, si bien... on a du mal, bon, on ne sait pas comment étaient les adolescents de cette époque, mais on a parfois du mal à croire, pour moi qui côtoie un peu les adolescents ou les jeunes, qu'on puisse s'exprimer ainsi, avec une telle beauté et une telle profondeur. Mais bon, je ne sais pas exactement quel âge elle avait, mais peut-être entre 13 et 14 ans, par là. Et donc, c'était une adolescente qui exprime d'une manière aussi profonde ce cantique dans le contexte qu'elle, particulièrement extraordinaire qu'elle est en train de vivre. Alors, on veut voir peut-être un petit peu le caractère d'abord de son adoration, de son cantique plutôt. On peut voir que c'est une profonde adoration ici. C'est une élévation, on pourrait dire, de l'âme. Le cantique commence avec « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur ». Donc les tout premiers mots de ce cantique indiquent qu'il s'agit d'une adoration, mais une adoration vraiment profonde. Tout l'être est engagé dans cette adoration. C'est son âme et puis son esprit. Ce ne sont pas simplement ses lèvres qui balbutient quelque chose. Ce ne sont pas des mots qu'elle prononce uniquement, des paroles qu'elle chante, comme parfois on peut le faire de manière extrêmement mécanique, hein, sans même penser aux paroles. Et puis, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous rappelle, mais tu as entendu ce que tu viens de chanter, regarde. Je n'ai pas fait attention. D'accord, là, c'est vraiment, elle dit que c'est son âme, son être, le siège de toutes ses affections qui glorifie Dieu. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Donc sous l'action du Saint-Esprit qui la couvre de son ombre, parce que c'est ce que l'ange avait dit, son cantique provient de son âme et de son esprit. Et qu'est-ce qu'elle fait dans ce cantique? Elle exprime, elle dit qu'elle magnifie, qu'elle glorifie, qu'elle élève, qu'elle exalte Dieu dans son âme. Et donc ses lèvres, sa bouche, ses mots deviennent l'expression de quelque chose qu'elle vit intensément dans son être. Et elle exprime la grandeur de Dieu au plus haut point dans son âme. Et ses lèvres donc deviennent, je le disais, l'instrument de son âme pour exprimer, on pourrait dire, de manière verbale, cette grandeur de Dieu. Et quand l'âme est remplie de Dieu, eh bien les lèvres en général expriment quelque chose. Là, le psalmiste dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » L'âme qui est remplie de Dieu exprime les choses de Dieu. Et donc, quand elle dit que mon âme exalte le Seigneur, et c'est ce qu'elle fait après, eh bien, c'est pas juste quelque chose de silencieux qui se passe, c'est qu'elle va dire des choses, elle va exprimer des choses, tant son cœur est rempli. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, la bouche peut prononcer de mauvaises paroles si le cœur est rempli de mauvaises choses. Et la bouche peut ne rien dire si le cœur est simplement froid aussi. Mais si le cœur est plein de reconnaissance à l'égard de Dieu pour quelque chose, eh bien la bouche normalement exprime cela. Et on peut adorer Dieu de la bouche et des lèvres. C'est pas mal. Le Seigneur l'avait fait remarquer aux Israélites. Ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné. Donc on peut adorer Dieu de la bouche et des lèvres avec un cœur éloigné de lui. Mais si on a un cœur qui est proche de lui, on ne peut pas ne pas exprimer la reconnaissance pour Dieu dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. En Romains 19, par exemple, dans un tout autre contexte, on trouve ce verset, l'apôtre Paul dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Donc la croyance du cœur entraîne la confession de la bouche. Et l'une des manières avec laquelle on dit, tiens, quand quelqu'un devient chrétien, on dit qu'il se met à témoigner, à parler de ce qu'il a reçu. Nous ne pouvons pas ne pas dire, ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est un petit peu la même chose. Et donc ici, c'est dans cette disposition d'adoration profonde que Marie, son cœur est tellement rempli, son être est tellement touché, son esprit est tellement dans la joie qu'elle va exprimer des paroles. Elle va exalter Dieu, elle va l'élever, elle va dire du bien de lui, elle va le vanter. Plus ça, on pourrait mettre toutes ces expressions pour l'exaltation, pour le fait d'exalter. Elle va donc élever Dieu, parler de sa grandeur, mais d'une manière la plus, intense possible. Donc la bonne nouvelle de l'Évangile, quand elle est reçue dans un cœur, dans une âme, elle ne laisse pas l'âme froide et sans expression. Les bergers ne sont pas restés muets. Lorsqu'ils, les anges les ont vus, ils sont partis. Et puis la Bible dit au verset 17 de Luc chapitre 2 que après avoir vu l'enfant Jésus, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Donc on pourrait dire le premier réflexe ici, c'est d'exprimer ce qu'ils ont vu. Anne, la dame qui a 84 ans, nous dit l'évangile de Luc, pareil, quand les parents emmènent Jésus dans le temple, eh bien, il dit, la parole de Dieu nous dit qu'elle a commencé à parler à tous ceux qui, de Jésus, à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et c'est ainsi que cela se passe. Donc on voit ici cette adoration profonde de Marie, cette expression puissante, forte, liée à aux circonstances qu'elle est en train de vivre, mais dans cette adoration, elle cherche à exalter, à magnifier Dieu, et elle dit que son esprit en même temps se réjouit dans ce Dieu, dans Dieu son sauveur. On peut voir aussi que dans le caractère de cette adoration, qu'il y a une expression, je trouve, forte d'adoration, il y a une attitude forte aussi d'humilité dans Marie. Elle commence par, d'ailleurs, premièrement, elle commence par reconnaître son besoin. Elle parle de Dieu, mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Elle exprime vraiment son besoin, mais elle le dit d'une manière encore plus forte quand elle parle au verset 48, regardez, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle se trouve au cœur d'un événement avec une portée planétaire. On pourrait dire ça, hein? Un petit peu. C'est vraiment l'entrée dans le monde du Fils de Dieu. Ce qui avait toujours été annoncé par les prophètes est en train de se produire. La promesse qu'avait fait Dieu dans le jardin d'Éden, même en disant en parlant de la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent, est en train de se réaliser. Donc c'est quelque chose, elle ne s'en rend peut-être pas forcément compte, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un événement à portée planétaire qui est en train de se produire. Mais ce que Marie dit en premier, c'est que Dieu a jeté les regards sur la bassesse de sa servante. On pourrait dire, comme diraient nos jeunes, elle ne prend pas la grosse tête. Elle dit pas, oui, oh là là, vous avez vu ce qui s'est passé, ce que Dieu a fait, regardez-moi. Et attirer un petit peu l'attention sur elle. Et on connaît tous les efforts que l'Église catholique romaine a fait pour élever Marie à une autre position. D'accord ? On l'a appelée la Mère de Dieu, la Reine du Ciel, l'Immaculée Conception, elle a été conçue sans péché et même... J'ai lu qu'on a voulu, je ne sais pas si ça a été sorti, mais en tout cas, il y avait l'intention de la faire co-rédemptrice. Ouais. Vous voyez, un petit peu, parce qu'elle a donné naissance à Jésus. Ouais. Mais Marie elle-même, ce qu'elle dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est que Dieu, le Tout-Puissant, non, elle dit plutôt dans ce sens, elle dit parce qu'il a jeté les yeux, Dieu son Sauveur a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Quand elle parle d'elle, dans ce cantique, ce n'est que pour exprimer sa bassesse. Et je crois même que lorsqu'elle parle de sa bassesse, ce n'est même pas pour parler d'elle, c'est pour pouvoir établir encore un plus grand contraste avec ce qui vient derrière, parce qu'après, elle va tout le long exprimer exprimer son adoration à l'égard de Dieu. À partir de cet instant, elle ne parle que de Dieu dans ce cantique. Alors, on regardera un petit peu cela. Regardez donc à partir du verset 49, commence à parler du Tout-Puissant, 50, sa miséricorde, etc. On va revenir là-dessus. Mais en tout cas, juste pour dire que l'humilité... n'est pas une vertu que nous connaissons. L'homme n'aime pas l'humilité, et encore moins les adolescents. Quand ils font quelque chose, qu'ils sont au centre de quelque chose, c'est l'occasion pour faire voir, pour faire sentir que c'est moi. Moi, quand ils sont même tout petits, ils disent « moi ». Tout de suite, c'est déjà là, les adultes aussi. Mais quand on est jeune, on aime bien être sur un pied d'estaler cette jeune fille au sein de cet événement extraordinaire et rempli d'une profonde humilité. Et son cantique tout entier, je crois, montre cette humilité. Elle sait qu'elle ne fait pas partie des grands de ce monde. Elle sait qu'elle vient d'un petit coin de la Palestine. Elle sait qu'elle n'a pas de mérite. Et elle ne parle, comme j'ai dit tout à l'heure, d'elle que pour bien mettre en contraste la grandeur de Dieu. Et elle le fait de manière en plus très, très furtive. Alors, quel est le contenu de son cantique? Si on regarde un petit peu, on pourrait dire que les premiers versets là sont un petit peu l'introduction de ce cantique, mais quel est le contenu de son cantique? Si vous lisez, vous allez voir qu'il est centré sur Dieu et sur ses œuvres. Regardez comment elle écrit, elle loue de manière, on pourrait dire, générale les attributs de Dieu. Par exemple, verset 49, elle parle du Dieu tout puissant. On pourrait parler de la toute-puissance de Dieu, l'omnipotence de Dieu. Regardez au même verset 49, elle dit son nom est saint. On pourrait dire qu'elle parle de sa sainteté. Verset 51, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ce qui avait le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et élevé les humbles. Comment on pourrait résumer cela un petit peu, surtout le verset 51? Oui, on pourrait dire sa justice, on pourrait dire aussi sa grandeur, sa souveraineté sur les gouvernements, sa gouvernance. Il élève, il abaisse, d'accord? Un peu comme c'est Daniel qui avait un peu parlé dans ce sens. Il établit et il renverse. C'est Dieu qui domine sur toute chose. Ensuite, elle parle aussi, regardez au verset 50, début du verset 50, elle parle de sa miséricorde qui s'étend d'âge en âge. Et puis au verset 54 aussi, elle parle encore de la miséricorde de Dieu. Si on regarde le verset 55, ici il dit « comme il l'avait dit à nos pères », verset 54-55, « et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours ». On pourrait dire là qu'elle parle de la fidélité de Dieu. Il l'avait dit à nos pères et maintenant il se souvient et il le fait. Donc son cantique est vraiment centré sur Dieu et sur ce qu'il est d'une manière générale. Mais elle le loue aussi d'une manière, plus spécifique en parlant de ses œuvres et en disant que c'est lui qui en est l'auteur à chaque fois. Regardez comment elle écrit, elle dit déjà verset 48, il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Au verset 49, elle dit « le Tout-Puissant a fait, c'est lui qui a fait ». Verset 51, « il a déployé sa force, il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants, il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde. » Voilà comment elle est vraiment, non seulement, bon, il y a une prise, enfin, on pourrait dire, on voit qu'il y a des thèmes qui viennent, la miséricorde, la toute-puissance, la justice, la fidélité de Dieu, mais elle est un peu précise même dans certaines choses. Elle dit voilà ce qu'il a fait, il a renversé ici, il a relevé là-bas, il a secouru. Donc elle est en train de louer Dieu d'une manière spécifique. Donc son cantique exprime quelque chose de compréhensible. Elle veut que ceux qui l'entendent, elle ne dit pas simplement « Dieu est grand », elle ne dit pas simplement « Dieu est miséricordieux ». Elle dit « Voilà ce qu'il a fait ». Voilà, il a jeté sur moi un regard favorable. Il a secouru Israël. Il s'est souvenu de sa miséricorde parce que maintenant, voilà, il envoie le Messie qui a été qui était promis. Et donc, c'est un cantique compréhensible. Hein? Parfois, quelques années, là, on a entendu dans un groupe. Des jeunes qui chantaient un cantique dans lequel il était dit « Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. » Et c'était toutes les paroles qu'il y avait dans le cantique. « Oui, Dieu, oui, Dieu, oui, oui, Dieu. » Mais ça ne veut rien dire. Hein? Il n'y a pas de message, il n'y a absolument rien dans cela. Hein? Lorsque Marie, dans son cantique, exprime quelque chose, c'est compréhensible. Elle pointe vraiment des choses bien précises pour montrer combien Dieu est grand dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait. Et donc ces paroles profondes, ce sont des paroles qui sont des paroles de vérité, qui magnifient Dieu, qui réjouissent son esprit, parce qu'elles sont basées sur des vérités précises, sur des choses précises que Dieu a faites. Donc un cantique spirituel, c'est le cas de ce cantique, exalte la personne et l'œuvre de Dieu et de Christ. Un cantique qui s'appuie aussi sur, on peut le voir ici, les Écritures. Ce cantique de Marie est un cantique qui s'appuie fortement sur l'Ancien Testament. Pour être centré sur Dieu, il faut prendre appui sur la parole de Dieu. On ne peut pas avoir un cantique centré sur Dieu qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Et donc le cantique de Marie est théocentrique, hein, si on veut, il est centré sur Dieu parce que il puise les vérités dans la parole de Dieu. Et c'est ainsi que doivent être faits les cantiques. Le cantique de Marie, c'est une série d'allusions, de reprises des paroles de l'Ancien Testament. Son cantique lui-même fait écho au cantique de Anne. Si vous lisez 1 Samuel, chapitre, ne cherchez pas maintenant, on n'aura pas le temps de voir tout, mais 1 Samuel chapitre 2, versets 1 à 10, eh bien, vous retrouvez mon esprit se réjouit, je crois, hein, en Dieu. Et c'est, à plusieurs endroits, il y a un écho des paroles que Anne prononce, hein, qui elle aussi avait été, vous rappelez, l'objet d'un miracle de la part de Dieu. Elle était stérile, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, et elle a eu Samuel. Et après, donc, un peu pour. J'allais dire, pas se venger, mais voilà, pour dire voilà ce que Dieu a fait, et puis le dire à ce qui lui voulait du mal, elle a composé ce cantique. Mais Marie reprend les paroles de ce cantique. Plusieurs passages des psaumes sont aussi pointés ici. Par exemple, le verset 49, vous pouvez le lier avec le psaume, plusieurs psaumes, mais avec le psaume 126, verset 3. Dans le verset 49, il est dit « Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses ». Vous vous souvenez bien que vous avez déjà lu ça quelque part dans les psaumes. « Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses ». Si vous regardez le psaume 126, verset 3, vous allez trouver une réplique hein, de cela. Si vous prenez le verset 50, « Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent », parfois il est dit « sa bonté hein. ». C'est d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Vous pouvez trouver par exemple ça au psaume 103, verset 18. Donc il y a comme cela plusieurs passages de l'Ancien Testament qui sont pratiquement presque tout ce qu'elle dit ici est tiré de l'Ancien Testament. Le verset 55 par exemple, c'est Michée 7, verset 55 où elle parle de la miséricorde de Dieu, de la bonté de Dieu envers Abraham et sa postérité pour toujours. On retrouve un petit peu cela dans Michée 7, verset 20. Donc ce cantique est un cantique qui prend appui sur les textes de l'Ancien Testament. Et il y a donc un cantique spirituel, hein, un cantique qui exalte Dieu est un cantique qui prend appui, qui trouve sa source, son inspiration dans les textes de l'Écriture. Et donc les vérités qu'elle avance trouvent leur fondement dans les Écritures. Et donc c'est important parce que parfois on a des cantiques qui disent, qui peuvent dire des choses, c'est joli mais c'est pas vrai. C'est beau peut-être musicalement et le texte est poétique mais c'est pas vrai. Hein, ça arrive des fois. Hein. Donc pourquoi? Parce que on n'a pas pris soin de vérifier si c'est conforme à la parole de Dieu. Donc le cantique de cette jeune adolescente est un cantique qui s'appuie sur la parole de Dieu. C'est dire la connaissance qu'elle avait des Écritures. Hein. La connaissance qu'elle avait des Écritures. Hein. Si on nous demandait juste de réciter un petit passage de la Bible par cœur, quelques versets, une dizaine de versets, je ne sais pas si nous arriverions à le faire. Ce n'est pas qu'on n'est pas capable de mémoriser, mais je veux dire, on n'a pas parfois pris l'habitude de mémoriser. On sait qu'on est capable de mémoriser. Nos jeunes ont mémorisé des chapitres entiers, il n'y a pas très longtemps, de la première épître de Paul à Timothée. Je ne sais pas ce qu'il en reste. Peut-être faudrait faire des tests, mais c'est possible d'apprendre. Mais apprendre comme Marie, ça n'est pas simplement mémoriser. C'est mémoriser, c'est méditer, c'est pouvoir faire appel au texte lorsqu'elle est dans une situation qui semble être similaire. C'est ainsi qu'elle utilise la parole. Et son cantique montre qu'elle est pétrie des textes de l'Écriture, mais pas simplement une connaissance intellectuelle, une connaissance expérimentale. Elle peut les prendre et l'adapter à sa situation et puis parler de Dieu dans un contexte convenable. Donc c'est une chose qui est très importante pour nous de mémoriser, de connaître la parole de Dieu, de chercher à ce que les cantiques que nous chantons ou que nous composons, peut-être parce que peut-être certains d'entre vous, vous avez la capacité de composer, eh bien, sont des cantiques qui puisent leur vérité dans les textes de la parole de Dieu. Et puis, ce cantique aussi, on pourrait dire qu'il a un point culminant. Hein. Quand on fait de la musique, on avait fait, on avait fait il y a quelques années avec M. Coleman, hein, on avait fait un séminaire ici et nous avait dit que dans les compositions, il y a un point culminant. Et il est, je ne sais pas où il se trouve, mais il faut qu'il se trouve quelque part. Un peu vers la fin peut-être, mais pas tout à fait à la fin. Mais où c'est... Là, on sent qu'on est arrivé au sommet de quelque chose et on termine un peu en douceur. Là, dimanche matin, on a répété avec les frères avant de chanter. Là, et Jeanne nous a dit, ça c'est le point culminant. Hein, donc là, il faut que ça soit un peu plus... plus fort, un peu plus... Hein, alors, on a essayé d'obéir hein, autant qu'on pouvait à cela. Mais si je vous demandais de trouver dans ce cantique-là le point culminant, hein, le point culminant, je ne sais pas ce que vous diriez. Est-ce que ce point culminant est au début? Est-ce qu'il est au milieu? Est-ce qu'il est vers la fin, comme on doit le faire dans les musiques bien composées? Alors regardez un petit peu, je ne sais pas si vous avez une idée d'où vous pourrez le mettre hein, un peu. Où? 49-50, le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, oui, son nom est saint, sa miséricorde s'étend d'âge en âge, oui.
Verset 42.
Oui, voilà, donc vous voyez qu'il y a plusieurs options, hein. 51... Oui, il a déployé la force de son bras. J'ai entendu 40 quelque chose encore.
Pourquoi ? Parce que là, tout de suite, elle s'écrit.
42. 46, tu veux dire ?
Non, 42, je dis.
Ah oui, non, mais je parle du cantique juste à 46, à 40, 46, d'accord ? Bon, okay. Moi, je le mettrais à la fin. Donc, ça va à l'encontre de toutes les règles que nous avons apprises musicalement. Mais je le mettrai dans les versets 54-55. Hein, ici, il dit, je vois ce cantique plus comme un crescendo, hein, où Marie part de quelque chose, elle dit qu'elle exalte le Seigneur, et puis Sa montre, elle parle de choses qu'il a fait jusqu'à arriver à quelque chose de particulier. Il dit, il s'est souvenu de sa miséricorde. Et puis, pourquoi je le dis? Parce que le cantique de Zacharie est presque pareil à côté. Si vous regardez Zacharie, 67 à 60 à 80, 79, à un moment donné aussi, lui, pareil, il parle de cette miséricorde de Dieu, de fait que Dieu s'est souvenu de sa miséricorde. Verset 72, il se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Et vous voyez ici, il parle de cette sainte alliance avec Abraham. Et Marie aussi parle de cette miséricorde. Elle dit ici, verset 54, « Il a secouru Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, et envers, dans sa miséricorde, envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Faut penser que ça faisait 400 ans qu'il n'y avait aucun prophète qui avait parlé. Le peuple était on pourrait dire, le silence radio de la part de Dieu. Aucune voix, pas de prophète. On avait terminé avec Malachie, vous vous rappelez, Malachie avait dit que Dieu enverrait le précurseur, son messager, et puis, mais quand? On ne savait pas. Donc 400 ans, c'est long. 400 ans, c'est long. Quand on attend déjà le train sur le quai de gare, on trouve que 3 minutes, c'est long, quand il est en retard. Mais 400 ans, imaginez 400 ans. Et puis imaginez, tous ceux, des gens sont nés, d'autres sont morts. Ça fait du temps que les pères racontent à leurs fils, à leurs enfants, tout. Voilà, que Dieu a promis. Et puis, il ne se passe rien. Et quand il ne se passe rien pendant une longue période de temps, on finit par dire, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous a oubliés. Dieu a complètement oublié sa promesse. C'est pas la peine. Alors des fois, on est tenté de faire n'importe quoi. On dit, bon, je parlais avec un collègue la dernière fois, et puis je ne sais plus comment c'est arrivé, mais et je lui dis, oui, mais Jésus-Christ va revenir. Et il l'a promis. Il m'a dit, mon ami, ça fait 2000 ans qu'on dit la même chose. Il dit, combien de temps faut-il encore attendre? 6000 ans? J'ai dit, il reviendra, c'est sûr. Et vous voyez, on est un peu comme cela. Quand le temps se rallonge, on dit, il ne va rien se passer. Et vous imaginez la joie de ceux qui attendent lorsqu'ils voient la réalisation de la promesse. Et je crois que le cantique, il pointe vers ce, il s'est souvenu de sa miséricorde. La promesse, et elle va chercher dans cette promesse qui a été faite à Abraham. Zacharie fait la même chose, d'accord? Et je crois que cette promesse, elle est bien formalisée avec ce serment dont Zacharie parle en Genèse chapitre 22, verset 16 à verset 18, où Dieu jure à Abraham, je le lis, il dit « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux » et dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le fond de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Et le peuple attend la réalisation de cette promesse qui a été faite à Abraham et qui a été rappelée, parce que Marie le dit, elle dit « comme il l'avait dit à nos pères », elle parle que Dieu s'est souvenu de sa miséricorde envers Abraham, et entre les deux, il y a une petite parenthèse, « comme il l'avait dit à nos pères ». Donc on sait que ces promesses ont été réitérées, redites parfois. Et le peuple juif, de ce temps-là, était marqué par cette attente, attente de la réalisation de la promesse. L'apôtre Paul parle de ce peuple en ces termes. Il dit, ce sont ceux à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances et la loi et le culte et les promesses. C'est le peuple de la promesse. Et pour qualifier les gentils, les païens, il les qualifie en ces termes, il dit « Vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. » Le peuple d'Israël, c'est le peuple à qui appartient la promesse. Et les gentils, en ce temps-là, il dit, vous étiez, quand vous ne connaissiez pas Christ, vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Et donc, imaginez ce peuple qui attend et qui voit. Hein. Anne, elle va le dire à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Donc, dans ce cantique, je crois que ce point ici, c'est le point culminant et il pointe inévitablement vers Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que s'accomplissent toutes les promesses de l'Ancien Testament. Il est le Messie qui devait venir, celui que Dieu avait choisi. Il est le Sauveur qui devait venir. Et donc, ce cantique pointe ici, à ce point précis, vers cela. Dieu s'est souvenu de sa miséricorde. Il a envoyé, donc on pourrait résumer ainsi, le Messie. Je voudrais terminer avec donc quelques petites applications ici. Ce cantique nous montre, de Marie, nous montre qu'il n'y a pas d'âge pour adorer le Seigneur. C'est un cantique d'une jeune fille adolescente. Parfois, on peut penser, oh, les cantiques, la lecture de la Bible, la prière, tout ça, l'adoration le dimanche matin, ça c'est pour les vieux. Hein? Là, eux, ils peuvent chanter. Non, hein, on a l'exemple ici d'une jeune adolescente qui compose un magnifique cantique d'exaltation et d'adoration. Ici, il n'est écrit nulle part qu'il faut attendre un certain âge avant de croire en Jésus-Christ, avant de chanter en l'honneur de Jésus-Christ. Il n'est écrit nulle part que la lecture de la Bible ou les cantiques ou la prière, tout ce que l'on peut avoir dans un culte et pour ceux qui ont déjà atteint un certain âge. J'aime bien ces textes ici. Il y a d'un côté le cantique d'un vieillard et de l'autre celui d'une jeune adolescente. Il y a Zacharie et puis il y a Marie. Et les deux ont la même chose comme point de focalisation, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Deuxièmement, on pourrait, en application, voir aussi que nous devons prendre l'habitude de développer une familiarisation avec l'Écriture. Marie était familière à l'Écriture. Ça veut dire que les textes de l'Écriture ne lui étaient pas étrangers. Elle les connaissait, elle les méditait. Et ça, c'est un exemple pour nous. Je crois que cette jeune adolescente est en tout cas un exemple pour moi, dans le sens où elle avait médité les textes qu'elle avait à sa disposition. Et donc, parents, il nous appartient à nous de créer le cadre propice pour que nos enfants puissent grandir dans la connaissance de l'Écriture, mais qu'ils puissent connaître l'Écriture, qu'ils puissent le mémoriser. C'est pas toujours facile, hein. Il y a beaucoup, tellement de choses actuellement qui nous sont proposées qu'on a du mal à prendre ce temps. Je le dis en regardant à moi-même, hein. Mais on a besoin de consacrer, de favoriser le temps pour l'exposition aux Écritures. Marie, même sous l'inspiration du Saint-Esprit, ce qu'elle a dit, elle a tiré de ce qu'elle connaissait des Écritures. Hein? Parfois, oh, l'Esprit de Dieu, il y a des gens qui disent, l'Esprit de Dieu me parle. Non, l'Esprit de Dieu utilise la parole. D'accord? Et donc, elle ne pouvait pas faire appel à ce qu'elle ne connaissait pas. Elle a dû l'apprendre. Et c'est parce qu'elle l'a appris que le Saint-Esprit s'en sert et qu'elle peut maintenant restituer les choses dans un contexte particulier. Donc, il est important aussi pour nous, chers frères et sœurs, d'apprendre à nous familiariser avec la parole de Dieu. Donc, nous familiariser avec, c'est la lire, c'est la méditer, c'est l'étudier, c'est la chanter et c'est la prier aussi. Hein. On peut prier la Bible, chanter la Bible, méditer la Bible, lire la Bible. Qu'est-ce qui ressort quand on est dans un événement particulier? Est-ce que comme Marie, on est poussée par le texte biblique ou par autre chose. Une troisième chose que je voudrais souligner, c'est que la Bible fournit à l'âme chrétienne l'expression la plus profonde et la plus vraie de ses sentiments. Marie n'a pas cherché dans les rayons d'un coucher de soleil ou dans le chant mélodieux des oiseaux comment exprimer ce qui lui arrivait et cette situation. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a exprimé à travers les Écritures. C'est dans les Écritures qu'elle a puisé de quoi exprimer sa joie profonde. Pas en regardant les reflets du soleil sur les pétales des nénuphars à la surface d'une eau, etc. Bon, bien sûr, ça peut amener une certaine inspiration. D'accord, hein? Je peux parler de la grandeur de Dieu en regardant la montagne, la création. Et donc, je peux dire des choses sur Dieu en regardant la nature. Mais pour dire qu'il s'est souvenu de sa miséricorde, je suis obligé de m'appuyer sur l'Écriture. Il faut aller dans cette parole, dans cette Écriture pour pouvoir dire ces choses, pouvoir dire que Dieu a tenu sa promesse. Je ne peux pas le voir simplement, je ne peux pas le dire simplement en regardant la beauté d'une rose, même si c'est très beau, même si c'est très joli. Lorsque le Seigneur Jésus était en prise au diable après les 40 jours de tentation, eh bien, il n'a pas innové, il a fait appel à l'Écriture. Et lorsque sur la croix, il avait besoin d'exprimer vraiment cette douleur de la séparation qu'il ressentait, il a cité un psaume, le psaume 22. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a puisé lui-même, qui est la parole, dans l'Écriture. Et donc, il est important aussi pour nous de puiser dans l'Écriture. Il y a des gens qui disent, moi, je vais être original. J'ai pas besoin de prier comme Paul. J'ai pas besoin de prier comme de chanter comme David. J'ai pas besoin d'exprimer la souffrance comme Job. J'ai mes mots. Ouais, mais on peut pas être plus créatif. Quelqu'un ne peut pas être plus créatif que Dieu. Hein. Là, il a mis les. Si vous voulez avoir l'expression.